Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 77e numéro de Force 7, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, en visite sur le canton d'Oraison. Nous entendrons Eliane Bareille ainsi que le maire et conseiller départemental Benoît Gauvin. Au pied de la montagne de Lure, Monlot cultive son art de vivre. Nous avons interviewé la maire du village, Camille Feller. L'éco-quartier de Volonne a reçu la victoire du paysage. Sandrine Cossera, maire de Volonne, en parle dans un instant. La saison culturelle est annoncée pour les musées départementaux du 04. Odile Frison a interviewé les directeurs et directrices de Salagon et Quinçon. Et puis, à la fin de ce magazine, nous verrons que la mairie de Manosque investit sur le stade de rugby. Nous entendrons Camille Galtier qui a effectué une visite de chantier. Le CD04 en visite à Oraison.
Les visites cantonales qu'effectue Eliane Bareille sur le département se poursuivent. Dernière en date, c'est sur le canton d'Oraison que la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence s'est rendue. Au menu de sa matinée, une rencontre avec les maires pour une réunion de travail et une visite sur le terrain pour des dossiers importants comme le futur collège. Elle en parle dans un instant. Trois communes seulement, est-on tenté d'ajouter, composent ce canton dont la population est d'environ 15 000 habitants. Lémé, Villeneuve et Oraison se développent, les derniers chiffres de l'INSEE le confirment, avec par exemple plus de 6000 habitants sur Oraison. Donc trois communes, mais sur deux agglomérations, DLVA et P2A, et un seul département. Au cœur de la discussion des élus, les soutiens du département, FODAC pour l'aide aux communes, contrats de territoire et les dossiers départementaux, routes et sociales notamment. Eliane Bareille veut mettre plus de souplesse dans les formalités et rapports avec les villes et villages, mais demande aussi que les amendes de police qui sont réparties sur ceux-ci soient affectées à des équipements et actions bien ciblées sur la sécurité. Je vous propose d'écouter Eliane Bareille et Benoît Gauvin, élus maires en 2020 et en 2021 au département, alors que la présidente affiche des mandats divers sur trois décennies. Des différences qui ne les empêchent pas de travailler ensemble, précise-t-il. Eliane Bareille, vous présidez le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes en visite cantonale à Oraison. Pour quelle raison ?
Eh bien, j'ai entrepris la visite de tous les cantons et la rencontre de tous les maires dans les cantons pour justement venir discuter des projets sur les communes, mais pas que, des dispositifs qui sont mis en place par le département et éventuellement l'amélioration qu'on peut leur apporter.
Avec évidemment des contacts directs avec les maires.
Oui, ben moi, vous savez, ça ne vous surprendra pas si je vous dis ça. Mon ADN, c'est la proximité. Je pense qu'on avance bien quand on est en contact avec les élus. Parce que quand on est maire, on n'a pas la même vision que quand on est président de département ou autre.
On sait ici qu'à Oraison, par exemple, c'est une zone rurale, mais il y a quelques industries, il y a des commerçants, il y a des artisans. C'est un endroit très dynamique.
Tout le département est rural, donc bien sûr c'est une commune rurale, mais c'est quand même une commune très dynamique, puisqu'on y trouve absolument tous les collèges, et puis qu'il y a quand même que quelques très très belles entreprises.
Alors vous me tendez une perche, évidemment, collège, il y a un gros projet ici à Oraison, c'est un nouveau collège entre guillemets.
Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est un projet, mais c'est un projet qu'on a discuté avec le maire, qui pourrait démarrer au moins pour les études avant la fin de ce mandat, et éventuellement réfléchir sur une bonne répartition des élèves sur l'ensemble du département.
Alors justement, le maire Benoît Gauvin, c'est un nouvel élu au conseil départemental. Vous êtes une élue très expérimentée, Eliane Barré, comment vous le trouvez ?
Il ne m'appartient pas de juger le maire d'Oraison sur sa fonction de conseiller départemental. Ce que je peux dire par contre, c'est que nous avons établi un excellent partenariat.
Il est justement à nos côtés, Benoît Gauvan. La présidente du conseil départemental sur votre commune et sur votre canton, c'est quelque chose d'important.
Bien sûr que c'est important, notamment sur le fait, je pense, qui est souvent mal cerné par nos habitants, c'est le rôle du département dans notre vie quotidienne. Et il a un énorme rôle dans notre vie quotidienne. Les routes, les collèges, nos anciens et tout le caractère social. Donc c'est très important que la présidente du conseil départemental vienne nous voir dans nos communes et montre aux habitants par sa visite l'importance du département dans notre vie quotidienne.
Quels sont les projets éventuellement et les dossiers que vous avez avancés avec Eliane Bareil lors de cette visite ?
Alors d'abord, je lui ai présenté tout le programme Petite Ville de Demain, puisqu'il y a quand même aussi autour du programme Petite Ville de Demain la question de la traversée de ville avec une route départementale. Nous sommes allés voir l'éventuelle possibilité d'emplacement du futur collège. Et puis, on a aussi fait un petit tour sur la route du Castelet, parce qu'on est sollicités tous les deux par des riverains, parce que la route présente quelques inconvénients de circulation qu'il faudrait qu'on puisse régler ensemble.
Vous êtes conseiller départemental depuis 2020 et vous êtes donc à la tête de la commune d'Oraison, mais aussi à l'écoute de tous les maires autour de votre commune.
Ben, les maires de mon canton, qui prend en compte la ville d'Aimé et de Villeneuve, les maires seront avec nous tout à l'heure, et puis de leurs problématiques qui touchent le département. Et puis, c'est aussi cet avantage-là d'être maire, c'est qu'on parle souvent le même langage, on a les mêmes contraintes, les mêmes problèmes. Et donc, moi, en tant que jeune élu, c'est aussi très, très important de pouvoir échanger avec des maires qui ont un peu plus d'expérience et avec qui partager mes petits problèmes du quotidien.
Alors justement, je vais rebondir également avec la dernière question que j'ai posée à Eliane Bareil, mais je la retourne pour vous, Benoît Gauvan. Vous vous sentez bien au conseil départemental ?
Écoutez, je me sens très bien. Je ne fais pas partie de la majorité, mais je ne me sens pas du tout dans une opposition. On travaille en bonne intelligence, on discute. En fait, ce que j'ai retrouvé, c'est l'envie commune de faire avancer le département, quelle que soit l'étiquette politique. Et ça, je pense que c'est l'essentiel.
De la maire de Montlot, le bien vivre au village.
Situé au pied de la montagne de Lure, près de Fort-Calquier, le village de Montlot compte 200 habitants qui partagent un cadre et un art de vivre certain. Les vestiges du vieux Montlot surplombent le village actuel et semblent veiller à la sérénité des habitants, comme autrefois leur sécurité face aux invasions. Depuis quelques années, des chantiers et des financements, dont celui de la mission Berne en 2022, permettent la restauration des vieilles pierres avec passion. Et avec cet héritage, la commune va de l'avant, sous l'impulsion de sa première magistrate Camille Feller et son équipe, mais aussi avec plusieurs habitants et amis, le village se modernise et construit. L'an passé, un ensemble mairie, restaurant et quelques logements a complété un équipement plutôt restreint. L'ouverture du restaurant Le Moularin, confié à un jeune couple, va au-delà du symbole. Les clients ne s'y trompent pas et apprécient une carte qui fait la part belle aux produits locaux préparés par un chef inspiré. Intégré dans un village qui cultive la convivialité, l'établissement est un plus aux divers marchés et animations qui ponctuent l'agenda local. Éleveurs et producteurs locaux, mais aussi la bière de Montlot affiche la couleur. Récemment, la traditionnelle cérémonie des vœux municipaux a pu se dérouler après 2 années suspendues pour cause de crise sanitaire. À la chaleur de l'instant s'ajoutait celle des retrouvailles à la salle communale où la maire a rappelé en images les réalisations et temps forts de 2022. L'ouverture de l'école, tout d'abord, véritable événement sur une commune rurale, puis le vieux Montlot, réfection du lavoir, de l'église, inauguration de la mairie et du restaurant, des travaux d'enfouissement et tous les instants conviviaux vécus. De quoi oublier un moment, l'inflation galopante, les inquiétudes de tout un chacun et la guerre aux portes de l'Europe. En fait, un temps pour resserrer les liens. Je vous propose d'écouter Camille Feller qui revient sur l'année écoulée. Camille Feller, vous êtes maire de Montlot. Comment s'est passé 2022 sur votre commune ?
En 2022, nous avons réussi à mener à bien plusieurs projets. Il nous a pris plusieurs années, qui est l'ouverture d'un commerce. Il n'y en avait plus depuis les années 90 sur la commune. et qui fonctionne bien, puisque 15 jours après l'ouverture, le bistrot devait refuser du monde. Et nous avons eu aussi la joie d'avoir l'ouverture d'une école sur la commune.
Donc deux temps forts, mais ça veut dire aussi que votre village se développe et vit.
Oui, on essaye d'être vraiment une ruralité vivante. C'est un peu notre motif, en fait. Et il y a des jeunes qui s'installent, il y a des agriculteurs qui s'installent, comme je l'ai dit aussi. Et puis ce commerce qui amène beaucoup de vie et qui permet aussi aux producteurs de trouver des débouchés devant chez eux. C'est très beau.
Alors il y a cette dynamique des paniers de lure, expliquez-nous.
Donc les paniers de lure, c'était un système pour proposer des produits bio et locaux. Les producteurs, les gens s'inscrivent, puis les producteurs fournissent. Pour eux, c'est très pratique. Ils n'ont pas d'invendu, ils n'ont pas à rentrer une fois le marché fait, puisque tout ce qu'ils apportent est vendu. Et cette dynamique a été vraiment renforcée par le bistrotier qui joue 100% le jeu, qui se fournit ces producteurs-là. Et on fait des animations tous les premiers lundis du mois en musique qui amène un monde fou et qui permet vraiment aux gens qui viennent vendre de faire de bonnes soirées.
On pourrait même dire que c'est une vitrine.
C'est le but. En fait, le but du bistrot, c'était de mettre en valeur les produits locaux. Et ça marche très bien parce qu'il fait une cuisine qui est créative. Donc, il fait des produits locaux avec une cuisine qui est inventive. Et quand les gens viennent au restaurant, d'abord, ils ont la liste des producteurs. Et ça leur donne aussi envie d'acheter les produits qu'ils consomment. C'est quelque chose qui fonctionne.
Vous avez également des projets en ce qui concerne les travaux d'aménagement de votre village.
En 2023, vont aboutir en fait les projets qui ont été financés par la mission Berne Patrimoine. Donc il va y avoir plus de 300 000 euros de travaux qui vont être faits sur le vieux Montlot, ce qui permet aussi de créer une dynamique sur le village, parce que quand les gens viennent travailler, ils consomment sur place, ils dorment sur place et ça fait un plus pour la commune et puis ça fait aussi connaître Montlot. Et puis donc on travaille aussi sur la création de logements sociaux pour essayer de sortir du problème de l'ancien camping. Donc là aussi, c'est des projets qui sont quand même bien avancés. Et il y a aussi la restauration de deux bâtiments en logements sociaux qui vont être finis d'un mois à l'autre, on espère.
Alors, comme toutes les communes rurales, vous ne roulez pas sur l'or et vous pouvez vous reposer ici à Montlot sur une équipe de bénévoles. C'est assez fantastique.
Mais sinon, on ne ferait rien. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Nous, qu'on n'a pas d'argent, il faut se retrousser les bras. Donc, effectivement, une grande partie du travail qui pourrait être fait par des entreprises sont faits par des bénévoles, ce qui ne nous empêche pas de faire travailler des entreprises pour des choses plus techniques, comme par exemple au Vieux-Montlot. C'est vrai que tout ce qui demande un échafaudage sera fait par des entreprises. Tout ce qui est mur en pierre sèche à hauteur d'homme sont faits par des bénévoles. Ça permet d'en faire beaucoup plus et ça permet aussi de créer de nombreuses animations qui ne reposent que sur des associations qui sont entièrement bénévoles.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2023 ?
Eh bien, de voir aboutir les projets, de ne pas avoir des bâtons dans les roues. Et puis surtout, moi je souhaite une année engagée, que les gens aient conscience qu'il y a une crise écologique, il y a une crise sociale, il faut s'engager pour voir aboutir aussi nos idées. Je pense que c'est en tout cas moi ce que je souhaite pour ma commune, c'est que ça continue à marcher sur des gens qui ont des valeurs et qui les mettent en œuvre.
Volonne, l'écoquartier obtient la victoire du paysage.
Lauréat des victoires du paysage 2022, aménagement de quartier, le village de Volonne se distingue avec la récente remise d'une victoire du paysage. Pour la maire Sandrine Cossera et toute son équipe, le challenge est réussi. Cette transformation se caractérise par la création d'équipements publics structurants et de logements sociaux avec des espaces publics requalifiés. Ce projet d'aménagement a été mené dans une démarche de développement durable et environnemental. La dynamique éco-quartier a permis la réalisation et l'implantation de bâtiments nouveaux et divers et fut réalisée dans un souci bioclimatique et d'insertion dans le tissu urbain, tout en préservant la quasi-totalité des arbres existants. Au micro de Chris Alessandri, Sandrine Cossera, maire de Volonne, s'exprime en réunion de travail sur les actions menées par la commune.
Cette année, qui ont vu effectivement se construire cet aménagement, qui a créé aussi de l'attractivité. Cette année, pour la première année, on a un peu plus d'une dizaine d'élèves supplémentaires dans nos écoles. Donc ça, c'est quand même important. Ça a des implications au-delà de juste améliorer des espaces. Ça nous a permis aussi, cet aménagement, d'avoir des bâtiments qui aujourd'hui sont devenus tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça nous a permis de rénover déjà thermiquement un certain nombre de bâtiments. Déjà, les bâtiments neufs sont très performants énergétiquement, que ce soit les logements du bailleur social, Habitation de Provence, comme la maison de santé ou la cantine. Mais ça nous a aussi permis de rénover, par exemple, la crèche. Et demain, on va dire, il y aura aussi une suite, parce qu'il faut qu'on continue. Et demain, ce sera l'immeuble de la Poste, les écoles, la mairie, la salle polyvalente qui feront l'objet de rénovation thermique aussi pour réduire nos consommations. D'ores et déjà, quand on a fait l'écoquartier, on s'est doté d'un réseau de chaleur au bois plaquette. Et ça a été un bon choix, parce que le bois plaquette, aujourd'hui, c'est une des énergies qui a augmenté le moins parmi l'inflation énergétique qu'on sait. Donc finalement, c'était aussi des choix qui permettaient de prémunir la commune dans ses finances, avec des choix énergétiques intéressants. Mais effectivement, on a fait un travail ensemble. Et aussi, avec les financeurs, parce que comme je le disais, on était une commune qui partait aussi avec très peu de finances. Et la façon dont on a conçu, c'est aussi une approche de sobriété. On se le redisait, en fait, on a réutilisé autant qu'on pouvait des matériaux qui étaient déjà existants sur le terrain. On a fait des conceptions sobres. On rappelait le coût au mètre carré. Ça a été aussi le fruit de, à la fois d'une conception sobre, où on a dit, on n'a pas cherché, il n'y a pas eu fioriture, on a cherché vraiment la mutualisation au maximum. Donc, une conception extrêmement sobre, que ce soit pour la maison de santé, la cantine, les logements sociaux. Et aussi une mutualisation, c'est-à-dire qu'en faisant le choix avec le bailleur social d'avoir une maîtrise d'œuvre commune et de faire un chantier commun, c'est-à-dire que quand on a consulté les entreprises, on a fait un groupement de commandes. Et donc là, nous, en plus, c'est là où c'était pas mal, parce que nous, on n'avait pas des reins tellement solides au niveau de la commune pour monter des marchés aussi importants. Sauf qu'on avait un bailleur social qui en avait et l'expérience et les moyens. Et ils ont accepté qu'on monte ensemble un groupement de commandes. Donc ça a été fait dans les règles de l'art. Et ça nous a permis, évidemment, comme on avait massifié, d'avoir des offres. 94% du montant des commandes, c'était des entreprises du 0,4 et du 0,5. Donc ça, c'était aussi important. On a pu faire travailler des entreprises du coin. Et on a pu, comme ça, avoir des prix qui étaient extrêmement raisonnables, sortir des bâtiments qui n'étaient pas trop chers. Voilà. Donc on arrive à son terme. Donc là, on a fini d'aménager donc les espaces publics. Et du coup, donc ce dont on voulait parler, c'est aussi de la démarche écoquartier. En fait, vous avez compris que dans cet aménagement, on voulait bien vivre ensemble, on voulait créer durable. Et moi, ce que je voulais aussi, c'est qu'on marque en fait le fait qu'on vit avec notre environnement. C'était très fort, quand je vous ai dit qu'on a tout aménagé en fonction de la nature existante, que H2P a fait un effort remarquable en acceptant de couper son bâtiment plutôt que de couper un arbre. Mais aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait la qualité du lieu. Et du coup, donc cet aspect environnemental était essentiel. Je crois qu'Hélène l'a senti, en fait, dans tout le cheminement du projet. Elle a eu une place extrêmement importante, une écoute extrêmement importante aussi de la part de la commune par rapport à tous ces conseils. Il faut, dans tous les projets, avoir une architecte paysagiste. C'est essentiel. C'est un discours que je tiens et qu'il faut entendre, voilà, s'il y a un message fort aussi.
La belle saison de Salagon.
Ethnologue de formation spécialisé dans le patrimoine ethnologique, Antonin Chabert était responsable scientifique avant de prendre la direction des musées et jardins de Salagon à Mannes en mars 2022. Il présente avec enthousiasme les nouvelles expositions de la structure pour la saison culturelle 2023. Celles-ci débuteront le 1er février, date de la réouverture annuelle du musée, avec « Jouets retrouvés », une exposition de jouets anciens datant du début du XXe siècle. Le département a également décidé de mettre à l'honneur l'arbre représentatif de notre territoire et son univers. L'olivier « Notre arbre » est associé au projet européen « Olive for All » piloté par l'Université d'Avignon et Salagon en partenariat avec l'Université grecque de Thessalie et l'Institut polytechnique de Leiria au Portugal. Dans ce reportage d'Odile Frison, Antonin Chabert présente aussi « Le champ des possibles » par l'artiste Duyan Nanduk.
Antonin Chabert, directeur du musée de Salagon, musée et jardin. Une nouvelle année qui s'annonce bien et riche en expositions au musée de Salagon.
Exactement, donc avec de nouvelles expositions qu'on va proposer au public dès la réouverture du musée au 1er février, avec une nouvelle exposition qui va s'appeler « Jouer et retrouver ». Donc c'est l'idée de valoriser tout un aspect méconnu des collections de Salagon, à savoir des jouets anciens, des jouets de la fin du 19e siècle et début du 20e, qui montrent vraiment l'évolution d'une société, l'évolution des manières d'éduquer, l'évolution des manières de se divertir, les grandes évolutions techniques aussi. Et donc tous ces jouets qu'on va présenter au public. Et cette exposition va durer pendant 2 ans, donc jusqu'au 15 décembre 2024. Ensuite, on aura une nouvelle exposition à partir de la fin du mois de mai, qui va s'appeler « L'olivier, notre arbre », qui va donc vraiment montrer les liens particuliers qui existent entre cet arbre et les sociétés méditerranéennes, qu'à travers l'alimentation, la symbolique, les usages, les valeurs qui sont associées. C'est une exposition donc qu'on a conçue en partenariat avec Avignon Université dans le cadre d'un programme européen. Et cette exposition va durer donc du 25 mai jusqu'au 15 décembre 2024. Donc le public aura le temps de venir la visiter, se l'approprier. Et puis pour terminer cette année, une autre exposition artistique cette fois-ci, qui sera donc présentée dans la chapelle du prieuré de Salagon à partir du 1er juillet jusqu'au 30 novembre. C'est donc un artiste qui s'appelle Duyan Nanduk, qui est d'origine vietnamienne, qui est installé à Paris et qui est un plasticien du végétal. Donc il travaille uniquement avec de la matière végétale. Et là, il nous présentera donc des créations assez récentes qui sont des installations qu'il a réalisé à partir de matières végétales et également des créations qu'il va préparer spécialement pour cette exposition. Donc c'est une invitation à la contemplation, au temps qui passe, aux cycles végétaux et à la rêverie également. Donc vraiment beaucoup de poésie dans ses œuvres. Et c'est un artiste qui a exposé au musée Guimet, par exemple, au centre d'art de Chaumont. C'est quelqu'un qui a vraiment un lien particulier avec le monde végétal et qui crée des choses tout à fait remarquables.
Et vous parliez de rénovation d'une salle d'exposition à Salagon.
Alors on a eu l'année dernière, on a rénové nos salles d'exposition temporaires. Donc ça a été un gros investissement du département et de la région pour moderniser ces salles d'exposition. Donc des travaux vraiment importants ont été faits sous la direction d'un architecte du patrimoine. Donc pour à la fois moderniser, monter en gamme au niveau technique aussi, et en même temps rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, et donc on a créé en fait un cheminement dans les jardins et tout un équipement pour permettre aux personnes à mobilité réduite de venir visiter ces salles. Et c'est vrai qu'on est vraiment content du résultat, et on a des salles donc bien équipées, modernisées, rendues accessibles pour accueillir nos publics.
Le musée de Salagon a subi évidemment aussi par le confinement et aussi la canicule des baisses de fréquentation.
C'est vrai qu'on a eu 2 années compliquées forcément en raison du contexte sanitaire et donc on a dû s'adapter. Mais en même temps, on a vu aussi au cours de ces dernières années que dès qu'on permettait au public de revenir, les gens étaient vraiment au rendez-vous, les gens avaient envie de sortir, de venir voir les jardins, les expositions dans des périodes difficiles. C'est vrai que je pense qu'on a d'autant plus de choses à apporter, à transmettre et aussi faire plaisir à nos publics à travers notre programmation. Et 2022, ça a été l'année dernière, une année vraiment de reprise. Donc le contexte sanitaire a quand même évolué, plutôt dans le bon sens, et on a pu sortir des contraintes et des gestes barrières, parfois bon, en fonction des périodes, mais du moins il y a eu moins de restrictions. Et le public est revenu vraiment de manière très significative, notamment sur certains événements. Par contre, c'est vrai qu'on a eu cet été caniculaire pendant plus de 2 mois, et c'est vrai que pour les jardins, c'était pas évident. Le public sortait très peu en journée. Il faisait tellement chaud. On a enregistré une baisse de la fréquentation au cours de l'été. mais qui a franchement été largement compensé par tout le public qui est venu pendant les arrières-saisons, qui a été vraiment beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Donc on s'adapte et par exemple l'été prochain, on proposera des nouveautés, donc des nocturnes, les mardis et les jeudis en juillet et août. Le site sera ouvert jusqu'à 22h avec des visites guidées qui seront proposées. Et également une nouveauté, le mardi et le jeudi au mois d'août, un médiateur du Centre Astro, donc de Saint-Michel l'Observatoire, qui viendra pour proposer des lectures du ciel étoilé aux visiteurs. Donc voilà, on a aussi cette nouvelle offre pour permettre aux visiteurs de venir à des moments où il fait plus frais pendant l'été, en soirée, donc les mardis et les jeudis pendant tout l'été et au mois d'août, ce partenariat avec le Centre Astro. Et une autre nouveauté aussi cette année, ce sera les dimanches de Salagon entre mi-juillet et mi-août, où là en fin d'après-midi, on proposera des concerts, des spectacles, des activités tous les dimanches. Voilà, donc on a aussi, on s'adapte et on essaie de proposer des choses plutôt en fin d'après-midi ou en soirée pour les publics.
Malgré tout ça, il y a quand même 27 000 visiteurs par an.
Exactement, on est à peu près à 27 000 cette année et c'est plutôt encourageant puisqu'on voit qu'on fait mieux que 2019, donc mieux que la période avant, évidemment, toute la période sanitaire qu'on a traversée, donc ce qui est plutôt encourageant. Effectivement, Salagon, bon, la fréquentation varie, hein, mais on est autour de 25, 30 000, parfois même on peut aller au-delà jusqu'à 35 000. Là, cette année, 27 000 et c'est vraiment bien. On voit qu'on a un public local qui est très fidèle, donc un public des Alpes de Haute-Provence, parce que je pense qu'on est un musée ancré dans notre territoire, un musée du patrimoine de la Haute-Provence, et en même temps tout un public régional plus largement aussi qui vient d'Aix, de Marseille, du Vaucluse aussi, et puis des étrangers plutôt pendant la période estivale ou l'automne aussi, donc des Hollandais, on a des Allemands aussi qui viennent, des Belges qui aiment beaucoup le pays de Fort-Calquier et qui viennent aussi nous visiter, voilà, donc c'est un public vraiment diversifié et toutes les générations, et un public familial aussi qui vient beaucoup.
Est-ce qu'on peut revenir sur vous, puisque vous avez pris la direction du musée de Salagon depuis mars 2022 seulement ?
Exactement, donc moi je travaillais déjà auparavant à Salagon, j'étais responsable scientifique, et puis ensuite donc, j'ai pris la direction du site l'année dernière. Donc moi je suis ethnologue de formation, et ensuite je me suis spécialisé dans le patrimoine ethnologique. Et c'est vrai que Salagon, c'est vraiment sa spécificité, c'est un musée d'ethnologie, donc qui parle vraiment de la vie quotidienne des habitants de Haute-Provence et des évolutions aussi de ce territoire, et les jardins qui sont aussi vraiment conçus autour du concept de l'ethnobotanique. C'est un terme un peu compliqué, mais qui va désigner quelque chose de simple, c'est les relations qui existent entre l'humain et les plantes, que ce soit dans l'alimentation, la médecine, la symbolique, la dimension ornementale, les représentations. Donc c'est vraiment l'originalité du lieu. Donc moi je suis vraiment fier aujourd'hui de diriger ce musée qui est vraiment original, puisque et donc il a toute cette collection. Le monument en lui-même aussi, qui est quand même assez remarquable, hein. C'est un monument classé, avec une église romane, avec des vitraux d'Aurélie Nemours qui sont magnifiques. Donc on a aussi de la création contemporaine. Et puis tous ces jardins à thème autour, un domaine qui fait 6 hectares en tout. Toute cette activité qu'on organise et ce rayonnement, Salagon est vraiment connu par tous les publics et même au-delà, hein, de la région. Et on a une équipe de jardiniers aussi qui travaille à l'année, donc une équipe de médiateurs culturels aussi et de chargés aussi d'exposition et également des agents d'accueil et de librairie. On a une librairie boutique aussi qui est très dynamique où on vend des livres et puis des produits culinaires, des produits aussi qui ont produits de beauté par exemple. Donc l'idée c'est de mettre en avant les savoir-faire des entreprises du territoire. Et on a également des plantes, on vend des plantes aussi qui sont produites par le domaine et également des graines. Donc voilà, librairie boutique aussi qui est très dynamique.
Le public, c'est plutôt familial ?
Le public est plutôt familial. On a pas mal aussi de gens qui sont à la retraite et des associations aussi de passionnés, de botanique, de patrimoine, qui sont très présents. Et un public aussi familial. Donc je dirais qu'on a un équilibre entre un public un peu spécialisé, de passionnés, qui vient chaque année, et aussi un public plus large, et on le voit notamment autour des grands événements, par exemple la nuit des musées, les journées du patrimoine, les rendez-vous au jardin. On a là vraiment un public familial. Il faut dire que nos jardins ont aussi été réaménagés pour accueillir ce public, puisqu'on a créé une course d'orientation pour les enfants qui leur permet de découvrir les jardins en s'amusant à travers des énigmes, des choses qu'il faut découvrir, des jeux dans les jardins, et ça leur permet du coup de s'approprier ces jardins.
Musée de Quinçon, la préhistoire est bien installée.
Directrice du musée départemental de la préhistoire des Gorges du Verdon, Sylvie Jurietti présente les expositions, événements et temps forts de la saison culturelle 2023, ainsi que les animations, ateliers, etc. Tout d'abord, les trois expositions. Néolithique sera visible du 1er février au 10 décembre, puis Histoire de collection jusqu'au 10 mai, et enfin le public pourra visiter l'expo Nous, Fragments, du 13 mai au 15 décembre 2023. Notez aussi que grâce au financement de l'Europe, la valorisation du sentier de découverte de la grotte de la Bonbonne sera inaugurée au début de l'été. Sylvie Jurietti répond aux questions d'Odile Frison.
Une exposition principale qui s'appelle Néolithique, les villages de Chana et Clairvaux, patrimoine de l'humanité, qui sont des villages donc préhistoriques, des premiers agriculteurs éleveurs du Jura, qui se sont installés entre 5000 avant Jésus-Christ et 2500 avant Jésus-Christ, et qui, ces communautés ont commencé à exploiter les sols pour cultiver des céréales, des légumineuses, et ils ont commencé à élever les animaux. Donc ces sites sont particuliers parce que en bord de lac, donc dans un milieu très humide qui a permis la conservation exceptionnelle de tous les outils, de tous les objets du quotidien en bois, en fibres végétales, les éléments de textile, etc. Ils font partie de 111 sites européens qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, à cet égard, en fait, ils ont une valeur universelle. Et dans le département, ici, ils pourront raconter de manière précise le quotidien de ces communautés d'agriculteurs éleveurs. Et puis, ils permettront aussi de faire le parallèle avec le musée de préhistoire des Gorges du Verdon, avec les ateliers que nous proposons, par exemple chasser à l'arc, puisque dans cette exposition, il y aura une vitrine avec tout ce qu'il faut pour chasser à l'arc, mais il y a 5000 ans, donc un arc entier, une flèche qui est encore emmanchée. Il y aura aussi tous les éléments pour faire du feu, le silex dont on a besoin, la marcassite qui va permettre de produire l'étincelle, mais aussi la madouvier, le champignon dont on tire les fibres très fines pour justement alimenter cette première étincelle. Et puis enfin, on fera un parallèle aussi avec le département, puisque dans cette exposition, il y a deux poignards qui sont fabriqués dans un silex très particulier, qui vient de la vallée du Largue, ici, en pays de Fort-Calquier. Et donc, cette exposition montrera aussi que ces matières premières se diffusaient à longue distance, par exemple, depuis les Alpes de Haute-Provence jusque dans le Jura.
Et puis alors, il y a beaucoup d'autres expositions ou animations tout au long de cette année 2023.
Tout à fait. Une deuxième petite exposition sera présentée au musée du 1er février jusqu'au 10 mai et qui s'appelle Histoire de collection, qui est en fait une exposition qui présente les collections d'archéologie dans les différents musées du département, que ce soit les musées départementaux mais aussi les autres musées, et qui présente aussi les collections mises au jour par le service départemental d'archéologie. Donc là, une illustration de ce domaine particulier qu'est l'archéologie dans les collections muséales ici dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis, suite à cette première petite exposition, une seconde prendra la place à partir de la nuit des musées, donc lors du 13 mai 2023. Là, c'est une exposition qui est en cours de réalisation par l'IDBL, l'école d'art de Digne. Les élèves travaillent actuellement sur la notion de fragments en archéologie et notamment en préhistoire. Donc, accompagnés par nos soins sur cette notion de fragments, ils sont en train d'imaginer des œuvres pour illustrer cette thématique. Et donc ça, ce sera présenté du 13 mai jusqu'au 15 décembre, fermeture du musée. Et puis ces expositions, donc ces trois expositions, et puis bien sûr le parcours permanent, tout cela sera accompagné d'un programme culturelle, avec notamment autour de l'exposition temporaire sur le néolithique, toute une série de conférences de chercheurs qui ont travaillé sur cette thématique, et avec, par exemple, pour les Journées européennes du patrimoine, une conférence de Jean-Paul Demoule, qui est néolithicien, et qui nous fera une présentation un peu provocatrice, qui s'intitulera « Fallait-il inventer l'agriculture ?». Et puis, on aura aussi également des projections de documentaires liées aux fouilles de Chalin-Clairvaux. Et puis, bien sûr, le musée continuera de présenter, de proposer des visites guidées du parcours permanent, mais aussi de l'exposition temporaire, et puis des ateliers à destination des enfants, des adultes, des visites de la grotte de la Bombonne, qui est le site majeur du musée, et sur cette question du sentier de la Bombonne, de son accès, donc qui se fait dans le cadre d'une randonnée. Cette année, un projet est porté à la fois par le service environnement du département et par le musée, donc un projet de rénovation de ce sentier d'accès, de manière à le rendre plus confortable et plus accessible, à le rendre accessible aussi toute l'année, parce que là, actuellement, on est un peu limité par les conditions météo. Et ce parcours sera accompagné de panneaux qui expliqueront les paysages aux différentes époques de la préhistoire, de manière à ce que le public puisse bien prendre conscience de l'évolution climatique et des paysages qui changent avec cette évolution. Et puis des panneaux informatifs aussi expliqueront la grotte elle-même pour les randonneurs qui feraient cette randonnée sans passer par le musée et par la visite accompagnée par les médiateurs. Donc ça, c'est un projet qui aura lieu, qui est inscrit dans le cadre d'un programme européen, le programme Alcotra-PEPA, et donc qui bénéficiera de financements européens dans ce cadre.
Est-ce qu'on peut faire un bilan par rapport à l'année 2022 et les visiteurs qui sont venus au musée de la préhistoire?
Alors oui, le bilan 2022 est plutôt satisfaisant. On a retrouvé notre public après 2 ans de difficultés liées à la pandémie, bien sûr. On a retrouvé ce public, on est quasiment revenu aux chiffres de 2019, avec un public touristique qui est toujours très important, évidemment, notamment l'été. On a le pic de fréquentation de l'été, mais on a aussi, bien sûr, les scolaires qui fréquentent le musée assidûment sur les autres périodes de l'année. Et donc, le bilan 2022, on est à peu près à 65 000 visiteurs sur cette année 2022, ce qui est tout à fait satisfaisant, même si bien sûr on va chercher avec la programmation culturelle de 2023 à faire encore progresser ces chiffres pour que plus de monde encore profite de cet équipement.
La Rochette, vrai poumon sportif de la ville de Manosque.
Depuis des années, de nombreux sportifs s'activent dans et autour du stade Jean Salobert. Tennis, rugby, judo, gym, boule par exemple, sans oublier le complexe Édouard Fachleitner pour la boxe et le tennis de table notamment. Le sport est un axe majeur pour la municipalité Galtier, dont plusieurs élus et chefs de service ont effectué une visite du chantier du stade de rugby sous la conduite des architectes et entreprises. Des tribunes d'une capacité de 250 places protégées par une canopée intégrée au cadre, des vestiaires fonctionnels et un accès sécurisé, un stade de repli en synthétique pour les échauffements et matchs des cadets, les travaux sont conséquents. 2023 est bien l'année du rugby en France, avec une Coupe du Monde où pourrait briller le 15 tricolore. Et 2024 ne sera pas en reste avec les Jeux Olympiques de Paris. Au-delà du rugby, la visite s'est également attardée sur le futur boulodrome et les structures pour les enfants dans le parc de la Rochette. Le maire de Manosque, Camille Galtier, revient sur cet investissement et la concertation qui a eu lieu avec les clubs sportifs. Camille Galtier, maire de Manosque, vous avez effectué une visite sur l'équipement sportif de la Rochette. Et on va parler tout d'abord du stade de rugby qui est en gestation.
Un nouveau terrain synthétique d'entraînement qui sera utilisé principalement évidemment par le rugby, mais il sera aussi utilisé par le foot en marchant, puisque une section s'est ouverte à la SPTT, par le futur club de football américain qui est en train de se créer sur la ville de Manosque, et une nouvelle tribune, un nouvel écrin de presque 400 places, avec une touche architecturale plutôt prononcée, qui vient habiller l'ensemble du site. Donc je pense que ça va être une très belle réussite paysagère, une très belle réussite sportive, et améliorer très sensiblement le site de La Rochette en parc des sports multi-activités.
Un investissement conséquent pour le rugby.
Alors, l'ensemble du site, au final, ça sera 3 millions d'euros, hein, une fois qu'on aura... Et le boulodrome, puisqu'il sera étendu avec une très grande extension. Il y a les terrains de tennis qui ont été aussi aménagés en fin d'année dernière en synthétique terre battue. Une grande plateforme pour les enfants, puisqu'on n'a pas oublié les familles. Et donc en effet aussi ce terrain de rugby avec les vestiaires et les zones techniques. Donc on est globalement à 3 millions d'euros d'investissement sur le parc de La Rochette.
Avec également un petit terrain de rugby qui servira d'entraînement et d'échauffement pour les équipes.
Oui, alors on avait cette nécessité aussi d'améliorer la pratique sportive sur La Rochette. Aujourd'hui, on a un club de rugby qui dépasse les 250 adhérents. Il n'y avait qu'un seul terrain, ce qui pouvait parfois être compliqué en termes d'entraînement du fait du gel, du fait des intempéries. Donc il nous a paru nécessaire de pouvoir faire un synthétique. Alors ce n'est pas un terrain aussi grand que celui en pelouse, mais il pourra à la fois accueillir les compétitions des petits et des juniors et à la fois être un terrain d'entraînement pour les seniors et les catégories plus importantes. Ce sera le même terrain qui sera également installé à la Ponsonne en 2024. Donc, on termine cette année en 23 le parc de La Rochette et on attaque en 24 le parc de la Ponsonne.
Alors tous ces équipements vont servir évidemment à des événements et des événements marquants aussi bien en 2023 qu'en 2024.
On a la chance, je crois, d'avoir été porteur et avoir fait le lobbying nécessaire pour pouvoir accueillir des compétitions importantes. Ce sera le cas en 23 avec la Coupe du Monde de rugby puisque la ville de Manosque accueillera le festival de rugby amateur qui va se déployer dans toute la région. Mais Manosque accueillera les quarts de finale. Donc c'est une belle chose pour l'attractivité de la ville et les habitants du bassin manosquin. Et en 2024, la ville de Manosque, vous le savez, dans le cadre du passage de la flamme dans les Alpes d'Haute-Provence, sera la ville arrivée de la flamme olympique. Donc nous, on prévoit de grandes fêtes autour des JO. C'est une fois dans un siècle. Soit on se dit qu'on fait peau de chagrin et on fait rien autour de cet événement-là, soit on se dit que Paris 2024 va être une fête pour tous les Français, et nous, à Manosque, on compte bien participer à la fête.
Enfin, dernière remarque, Camille Galtier, pour ces chantiers, les clubs sportifs de Manosque ont été assistés et ont participé à ces confrontations avec les architectes, avec les maîtres d'œuvre, etc. Et c'est une bonne chose parce qu'ils ont un regard véritablement qui a été pris en compte.
Il y a un esprit collaboratif qui a été fait depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y avait une commande publique en disant « bon, nous, la ville de Manosque, on souhaite faire un parc des sports ». Après, la question, c'était de savoir quel parc des sports. Est-ce qu'on le fait pour nous, pour se faire plaisir, ou est-ce qu'on veut qu'il serve de manière utile et fonctionnelle au club sportif? Et c'est là où les présidents et les bénévoles du rugby, de la SPTT et du club de boules ont fait le nécessaire et ont travaillé avec les architectes et avec le maître d'ouvrage pour faire avancer le projet à la fois dans les temps et en améliorant à chaque fois avec des idées intéressantes.
La livraison du stade de rugby?
Tout sera livré pour avril 2023.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour la régie et à bientôt.